Depuis plusieurs années maintenant, le Parc national des Pyrénées mène une politique très volontariste en direction des personnes en situation de handicap. La montagne n'est pas et ne doit pas être qu'un espace réservé aux seuls gens valides. Alors concrètement, comment cette accessibilité pour tous se traduit-elle sur le terrain? Quelles ont été les actions et les réalisations mises en œuvre par le parc? Quels sont ses projets en la matière, tout spécialement cette année où le parc fête ses 50 ans? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre chroniqueur du jour, Marie Hervieux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable de la communication au Parc national des Pyrénées. Quelles ont été précisément les grandes étapes des actions menées en faveur des personnes en situation de handicap?
Alors, le parc, depuis son origine, travaille sur la sensibilisation et l'accueil de tous les publics. Et à partir des années 90, le parc a véritablement voulu afficher une politique volontariste d'accueil des personnes en situation de handicap. Le conseil d'administration du parc s'est même saisi en 91 de cette question et a délibéré pour mettre en œuvre une véritable politique d'accessibilité du parc pour les personnes en situation de handicap. Alors le parc s'est investi dans différents domaines à partir de ce moment-là. Tout d'abord donc sur la mise aux normes et l'accessibilité de ces infrastructures et en particulier des maisons du parc national.
Alors on rappelle les maisons du parc national, il y en a au minimum une par vallée. Elles ont été labellisées, elles le sont-elles toutes, bénéficient-elles toutes de ce fameux label, le tourisme et handicap?
Voilà, donc on a même un peu plus qu'une maison par vallée, on a à peu près 9 points d'information maison du parc. Donc le siège du parc tout d'abord à Tarbes, il y a un espace donc d'accueil, un espace muséographique et de projection. Donc cette maison est labellisée tourisme et handicap pour les 4 handicaps. Après, en ce qui concerne le Béarn, on a une maison du parc à Etzotte et une maison du parc à Reims qui sont toutes les deux également donc labellisées tourisme et handicap pour les 4 handicaps. Sur la Bigorre, donc, on a une maison du parc à Saint-Lary qui est la dernière maison du parc qui a été complètement réaménagée, donc qui est elle aussi labellisée tourisme handicap pour les 4 handicaps. Celle de Cotteret a été complètement refaite. Il manquait une rampe d'accessibilité pour la maison à l'extérieur, donc parce que c'était compliqué avec un parking sur la voie publique. Donc cette rampe vient d'être finalisée. Donc on n'est pas encore labellisé tourisme handicap pour les 4 handicaps, mais tout a été conçu dans la maison et cette rampe vient finaliser en fait le projet d'accessibilité, donc il n'y aura aucun problème pour obtenir la labellisation. Si je continue sur les vallées, donc il y a la maison du parc à Reims-Marsous, la maison du parc et de la vallée à Reims qui est labellisée tourisme handicap pour les 4 handicaps. Et on a deux maisons qui sont en partie accessibles mais qui ne peuvent pas être labellisées, et ce sont les maisons de Gavarnie et la maison du parc et de la vallée à Luz qui ne sont pas accessibles. Je dirais c'est nos deux points noirs en fait, quoi. Et les deux projets sur lesquels il faut qu'on s'investisse fortement pour arriver à obtenir ces labellisations, mais l'ensemble des autres maisons. Et après, on a également donc un point d'information, et on va y revenir, donc qui est au terminus de la vallée du Têche, qui est également là complètement accessible et labellisé tourisme et handicap.
Alors, vous évoquez l'accessibilité aux 4 handicaps. Concrètement, comment ça se traduit dans les maisons qui bénéficient de ce label? Qu'est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent-elles y trouver?
Alors tout d'abord, je dirais c'est le plus basique et puis peut-être le plus connu du grand public, c'est l'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant. Donc là, tout doit être à hauteur, les portes aux bonnes dimensions. Et puis après, quand on dit pour les 4 handicaps, c'est-à-dire qu'il y a une accessibilité pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, pour les personnes en déficience auditive et les personnes en déficience mentale. Donc pour les personnes en déficience mentale, c'est beaucoup une approche tactile et beaucoup de tables d'interprétation pour que justement, il n'y ait pas des grands textes à lire et qu'on puisse comprendre aisément. Pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, ben, c'est un petit peu la même approche, beaucoup de tables d'interprétation et aussi des documents en braille. Donc souvent, les tables d'interprétation, les panneaux sont en braille. Et puis, on a par ailleurs des documents. Les films également, donc dans les salles de projection pour les personnes malvoyantes, sont audio-décrites. Et après, pour les personnes avec des déficiences auditives, eh bien, on a aussi le sous-titrage des films. Et après, le reste est beaucoup plus accessible, bien sûr, pour les personnes en déficience auditive. Voilà, donc c'est plein de petits éléments mis bout à bout qui permettent donc une accessibilité à tous ces publics.
Alors il y a les maisons du parc, leur aménagement, leur mise aux normes, comme vous disiez, mais il y a aussi un travail qui a été effectué sur le terrain, on va dire en extérieur. Je pense notamment aux aménagements du lac du Teche et à la maison du parc à Arins, sous le lac de Souyenne. Alors, des aménagements qui sont exemplaires. Tous les handicaps y sont également pris en compte. Alors on peut peut-être rappeler à nos auditeurs ce que l'on peut là trouver sur place.
Alors, la particularité de ces aménagements, c'est que on a choisi, en partenariat avec la commune d'Arins-Mersus, puisqu'on s'était partagé la maîtrise d'ouvrage avec un appui d'un partenaire qui travaille sur la vallée, qui est EDF, d'aménager la totalité d'une vallée. Donc, on a ponctué cette vallée qui fait à peu près une dizaine de kilomètres de points d'interprétation. Et à chaque point d'interprétation, en fait, on retrouve les mêmes éléments, c'est-à-dire des tables d'interprétation qui permettent une découverte du patrimoine naturel, du patrimoine culturel et puis des activités telles le pastoralisme, telles l'exploitation forestière, l'exploitation hydroélectrique, mais également de la lecture de paysages sur la faune, sur la flore. Et à chaque fois, donc, on a des tables d'interprétation, une traduction en anglais, en espagnol et en français, en caractère agrandi, et puis des maquettes à chaque fois par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour pouvoir justement découvrir aisément sans avoir besoin de lire. Le point essentiel, c'est que tous ces aménagements peuvent être accessibles en autonomie totale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être accompagné, même si on est en fauteuil roulant. Donc toutes les pentes sont inférieures à 3%, qui est la norme pour l'accessibilité.
Qui dit accueil de personnes en situation de handicap, dit formation des personnes en charge de l'accueil et peut-être même des sorties, des explications sur le terrain. Y a-t-il eu, j'imagine, des formations spécifiques assurées pour les gens du parc pour mettre en œuvre cette politique?
Alors, il y a eu des formations mises en place qui datent un peu, donc il faudrait aussi qu'on se renouvelle sur ce volet-là pour permettre de mieux comprendre ce que c'était le handicap, de mieux comprendre ce public-là, et puis aussi d'avoir voilà, une approche quand on accueille des personnes en déficience mentale, comment on doit réagir, comment on doit s'adapter. Et puis également, on a testé les fauteuils roulants pour pouvoir voir quand on est sur un fauteuil, comment on se déplace sur un sentier par rapport à la pente, par rapport à ce genre de choses. Donc voilà, on a vraiment été sensibilisés les gardes-moniteurs qui interviennent sur le terrain pour accompagner ces personnes-là.
Est-ce que cette réflexion et l'ensemble des mesures que vous avez mises en œuvre justement pour cette accessibilité, ben vous a pas amené à repenser l'accueil tout simplement du public qui est l'une de vos missions?
Alors, tout à fait, vous avez tout à fait raison sur cette analyse-là. En fait, on s'est aperçu que tous les aménagements qu'on avait conçus pour les personnes en situation de handicap, en fait, elles répondaient parfaitement à l'accueil de tous les publics. Alors, d'une part, on a pu toucher des gens qui ne sont pas en situation de handicap, mais des personnes âgées, des familles avec des enfants en bas âge, avec des poussettes. Donc, ces personnes-là ont aujourd'hui accès à la montagne et à ce type d'interprétation grâce à ces aménagements. Et puis après, tout simplement, on a adaptant nos discours et nos supports d'interprétation, on est plus accessible et plus pertinent dans cette sensibilisation du public.
Alors, je crois qu'il y a une dizaine de parcs nationaux en France. Des expériences analogues sont, j'imagine, menées dans d'autres parcs. Avez-vous des partages d'expériences avec eux?
Oui, tout à fait. Alors, sur les 10 parcs nationaux, aujourd'hui, on partage toutes ces expériences. On voit ce que font les autres. On a même mutualisé des outils. Et on a un partenaire commun qui est l'AGMF, qui est mécène des parcs nationaux sur ce créneau de l'accessibilité dans tous les parcs. Alors, on a un exemple commun dans de nombreux parcs, essentiellement donc de montagne, hein, les parcs alpins et puis les Pyrénées, de mise en accessibilité de refuges. Donc, c'est le cas, nous, pour le refuge des Espiguettes, qui est propriété du parc national sur la commune de Gavarnie, où, alors, le sentier, bien sûr, il fait bien plus de 3%, on l'imagine tous, mais on peut monter en jouellette, qui est une chaise à porteur pour les personnes en situation de handicap. Et après, une fois qu'on est arrivé au refuge, le refuge est accessible, c'est-à-dire que la personne avec son fauteuil peut circuler dans le refuge.
Y a-t-il des projets auxquels vous songez de mise en œuvre dans ce domaine d'accessibilité sur lequel vous travaillez actuellement?
Alors aujourd'hui, pour l'année 2017, c'est de fêter avec le public de personnes en situation de handicap le 50e anniversaire du parc. Donc on est en train d'organiser des sorties dans toutes les vallées pour permettre à ce public aussi de participer à cette grande fête du parc. Et après, je le disais tout à l'heure, c'est de continuer à travailler sur l'accessibilité des maisons du parc. Donc valider celle de Cotteret, commencer à réfléchir sur Reluce et puis sur Gavarnie. Comment les rendre accessibles. Ça, c'est les premières choses. Et puis, continuer à travailler sur des outils d'interprétation des malles pédagogiques adaptés au public en situation de handicap.
Concernant les 50 ans du parc et des sorties et des animations spécifiques qui pourront, j'imagine, également concerner les personnes valides, je vous renvoie sur le site internet du parc national où on trouvera toutes les dates en jour et en heure. Marie Hervieux, je vous remercie.
Merci à vous, au revoir.